Moi, c'est André de Mboujimaï, au Kassai oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes présidents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci d'être de nôtre. Plusieurs conflits de compétences sont enregistrés entre certains services de l'État dans la perception des taxes et autres droits dus à l'État à travers le pays. Pourtant, les décrets loi numéro 13/001 du 23 février 2013 portant fixation de la nouvelle nomenclature des impôts, droits, taxes et redevances des provinces et des entités territoriales décentralisées ainsi que leurs modalités de répartition fixent la règle du jeu conformément à la Constitution. Quel peut être, selon vous, l'impact de ces conflits et comment les régler? C'est la question principale de ces débats du jour. Pour intervenir en direct, composez le 081 890 6315. Vous pouvez aussi nous rejoindre à notre adresse pa@radiocapi.net et vous avez également la possibilité de déposer vos commentaires sur notre page Facebook. Merci à Titi Mpoutou, Pierrot Elamegi et Guy Mantangou qui réalisent cette émission présentée et coordonnée par J.R. Lungembo sous la supervision de Nicole Gaka. Bienvenue à tous.
Vendredi, c'est déjà le week-end sur Radio Capi. À partir du 1er juillet, des 17h à 19h, découvrez les meilleurs de programmes du week-end. Roundup, Okapi Weekend Matinal, le 9-13, Panorama économique, Zigzag, Métissage, les magazines des Nations Unies et Grands Témoins. Pendant les vacances, profitez du bonus week-end dès ce vendredi sur Radio Capi.
Voilà, l'ordonnance loi numéro 13/001 du 23 février 2013 fixe, comme je l'ai dit, la nomenclature des impôts, droits, taxes et redevances des provinces et des entités territoriales décentralisées et leurs modalités de répartition. Les règles de perception des impôts, droits, taxes et redevances provinciaux et locaux visés à l'alinéa premier de cette ordonnance loi sont fixées par la voie d'édit et des décisions des organes délibérants conformément à la législation nationale. Mais pour l'instant, nous constatons plusieurs conflits entre certains services de l'État. Cela est dû à quoi et quel peut être son impact sur les recettes de l'État et comment régler tous ces conflits? Adrien, vous êtes à Kananga. Bonjour.
Oui, bonjour, cher Lungembo.
Voilà, Adrien, vous ouvrez les débats du jour. Alors, selon vous, est-ce que vous imaginez que ces genres de conflits entre certains services de l'État, quant à la perception des taxes, droits et autres droits dus à l'État, pourraient avoir un impact négatif?
Tout à fait, JR. Merci beaucoup pour la parole. Je pense que c'est ce que nous vivons chaque jour dans notre province, pour ne pas parler des autres provinces. Je pense que la réalité reste la même. Donc, nous estimons à notre humble avis que la première conséquence, permettez-moi vraiment le terme, il s'agit là de l'ignorance, donc dans les chefs de beaucoup de personnels dans ces services-là. Et ici, nous sommes en train de payer cash notre façon, donc la façon du gouvernement de mettre n'importe qui et n'importe où. Et c'est cela la première conséquence. Et vous posez la question de savoir si il y aura un impact négatif. Donc, tout à fait normal, parce que lorsque deux services se rendent dans un milieu quelconque pour percevoir de taxes, donc le premier service perçoit. Et après quelques temps, le deuxième passe, et c'est ce que j'ai vécu même au port d'Ilebo. Et les gens, donc, voulaient même se donner des coups. Je pense que dans tout ça, c'est la population qui en souffre. Et c'est la population qui paye vraiment le prix cassé, donc, le pot cassé. La conséquence, donc, la solution, c'est quoi, JR? Je pense que c'est simple. Vous venez de citer les différents textes régissant, donc, la matière. Je pense, commençons d'abord par sensibiliser les différents personnels de ce service-là. Je ne mérite pas vraiment nommément citer ce service, mais commençons par les sensibiliser. Deuxièmement, donc éduquer tous ces personnels-là. Troisièmement, il faut commencer par vulgariser. Donc, toutes ces lois, tous ces textes, les mettre à leur disposition. Parce que lorsque je causais avec certaines personnes, ils ignoraient même certaines lois, ils ignoraient même donc les dispositions constitutionnelles. Et c'est dommage. Et puis, quatrièmement, je pense, là j'interpelle la justice. La justice doit être aussi vigilante et attentive pour se saisir de certains cas qui risquent vraiment de troubler, comme le cas d'Ilebo, là je vous assure, on était vraiment tout prêt à frôler même donc des catastrophes du côté d'Ilebo. Voilà d'une manière un peu brève, je pense lorsque nous mettrons sur pied les quatre propositions, donc sensibiliser, vulgariser, éduquer, et puis la justice se saisir de certains cas, nous allons vraiment résoudre tous ces petits problèmes-là.
Voilà, merci beaucoup Adrien d'avoir appelé. Et là nous retenons que c'est vrai, tout est lié à l'ignorance dans les chefs de personnel commis dans ces services-là, notamment au niveau de ces différents services. Et deuxièmement, vous avez parlé de conséquences qui peuvent en découler, notamment la tracasserie, et c'est la population qui pourrait en pâtir. Et vous en appelez à l'efficacité donc de la justice, hein, pour pouvoir faire un travail dans le sens de sensibiliser les uns et des autres. Merci beaucoup Adrien d'avoir appelé de Kananga. Franklin, vous êtes à Bukavu. Bonjour Franklin. Franklin, vous êtes avec nous?
Bonjour à tous les auditeurs de la radio Kati. Bonjour à tous.
Voilà Franklin, votre point de vue.
Oui, moi je pense que cela est lié au processus de décentralisation dans lequel le pays est engagé. Parce que vous savez, pendant longtemps, le pays était tellement centralisé où chaque taxe, chaque impôt devait être perçu au niveau national. Il fallait qu'au niveau national, qu'on essaie un peu d'établir les taxes. Mais à ce niveau ici, avec la décentralisation, nous voyons qu'il y a un peu de certaines matières qui reviennent à la province. Et là, il y a encore un déficit de taxes. On ne sait pas quelles sont les taxes qui doivent être perçues par la province et ceux qui reviennent au pouvoir central. Vous avez vu même dans la législature, parce qu'il y a eu trop de confusion sur les taxes, sur les jetis émis par certaines assemblées provinciales. C'est là parce qu'on ne comprend pas bien les processus de décentralisation. Et moi, je pense à ce niveau-là qu'il faut bien expliquer d'abord le processus de décentralisation. Qu'est-ce qu'il faut d'abord faire, qu'est-ce qui revient à la province et qu'est-ce qui revient au pouvoir central. Ça, je pense que c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est aussi la multiplicité des taxes. Vous voyez, et une taxe qui est perçue par plusieurs services, seulement la dénomination qui change, et là, on ne sait pas qui doit percevoir quoi. Et moi, je pense qu'à ce niveau-là, il faut d'abord sensibiliser la population, commencer par sensibiliser les services de l'État qui doivent percevoir ces taxes-là, et faire une démarcation nette, différencier quels sont les types de taxes qui reviennent à la province et quels sont les types de taxes qui reviennent au pouvoir central. C'est à ce niveau-là que moi, je pense qu'il y a beaucoup plus de problèmes. La conséquence, c'est qu'on risque d'avoir trop de civiques de fiscales. Les gens, parce qu'il y a trop de taxes, ou trop de taxes sur les taxes, les gens peuvent aussi avoir la tendance de fuir et d'avoir un comportement de civisme fiscal. Voilà ce que moi je pouvais
oui, Franck, comme oui, Franklin. Oui, Franklin, si vous pouvez peut-être rester encore en ligne, hein, c'est vrai, nous avons reçu une correspondance d'un auditeur qui a préféré garder l'anonymat, qui donne un cas par exemple que nous avons pu enregistrer à Kinshasa, notamment entre deux services, celui des Gérades et de l'environnement au niveau de l'IMETE, l'environnement qui dépend au fait, qui est un service de l'État, et la Gérades même. Mais les deux n'arrivent pas à s'accorder quant à la perception des taxes normalement liées au droit de l'environnement. Alors, ceux de la DGRAD ont été chassés des locaux au niveau délimité pour laisser la place à ceux de l'environnement. Alors, est-ce que vous pouvez commenter quand même ces genres de conflits? Ça vous inspire quoi?
C'est à ce niveau-là que moi j'ai dit il y a trop de confusion. On ne sait pas qui doit percevoir quoi et quand et où. Moi je pense qu'à ce niveau-là, qu'il faut mettre des textes. Les textes doivent être créés. Et ces textes-là doivent être disponibilisés et faire même la sensibilisation au niveau de la population, au niveau de ceux qui sont censés payer ces taxes-là. Parce que vous voyez, même aussi à Bukavu, ce cas-là existe. Dans une boutique, dans une maison de vente, c'est une quelconque chose, les gens les agents de l'État viennent en masse pour dire que non, c'est nous qui sommes habilités, vous créez aujourd'hui, que les autres viennent, notre taxe, mais vous vous rendez compte que finalement vous travaillez pour l'État. C'est là que moi je dis, il y a la conséquence d'avoir une évasion fiscale. Donc il faut bien faire les textes et savoir qui doit faire quoi, et il faut, comme l'a dit le premier intervenant, il faut vraiment sensibiliser les gens et le montrer. Cette année, si vous devez payer ça, et je pense que ce Nicolas là ça peut résoudre ce problème-là. Mais aussi, il a dit qu'il a proposé la justice doit faire son travail. Mais la justice fera son travail comment? On dit en droit, donne-moi le fait de te donner le droit. Il faut que celui qui se sent lésé, c'est juste la justice. Et à ce niveau-là, la justice doit vérifier réellement la personne qui a fait payer la taxe est habilitée. Et si la personne n'est pas habilitée, c'est sa maison, le service dans lequel il travaille qui doit payer.
Merci beaucoup, Franklin, d'avoir appelé. C'est vrai, nous retenons que, disons, cette perception des taxes au niveau des entités administratives décentralisées. Au niveau des provinces, selon vous, ça rentre dans le cadre de ce processus de la décentralisation, sur lequel la RDC s'est engagée. Et puis, vous déplorez une chose, parce qu'il y a plusieurs multiplicité des taxes, ce qui pourrait créer à la longue l'évasion fiscale, ce que nous appelons aujourd'hui le coulage des recettes, qui pourrait avoir peut-être une conséquence très, très néfaste. Merci beaucoup, Franklin, d'avoir appelé des Bukavu, 081. 1-890-63-15 pour votre intervention en direct.
Parole aux auditeurs.
Nous avons dans ces studios professeur Bobo Kayembe, et qui est fiscaliste. Bonjour professeur.
Bonjour.
Vous avez suivi les uns et les autres avant que nous puissions revenir sur les questions que nous avons préparées. Et quelle est la réaction que vous avez à entendre d'abord les auditeurs qui réfléchissent dans le sens de la vulgarisation d'abord, parce qu'il fallait vulgariser les textes qui régissent au fait la fiscalité dans notre pays. Et ils évoquent là donc le déficit de l'information et aussi le processus de la décentralisation qui est très mal engagée. Donc, vous, en tant que fiscaliste, par rapport à ces conflits que nous enregistrons entre les services de l'État, quel est le commentaire que vous faites?
Merci beaucoup, JR. En fait, je voudrais dire tout d'abord que le principe des taxes, la perception des taxes, c'est un bon principe parce que tous les États dans le monde fonctionnent avec les impôts et les taxes. Mais il faut noter quand même que la taxe est considérée comme la rémunération d'un service que l'administration rend à des usagers, à des particuliers. Et donc le paiement des taxes devrait correspondre avec des services réels que l'administration, que ce soit l'administration centrale ou bien de province, rend à des usagers. Or, on a affaire dans notre pays à des taxes qui ne correspondent pas à des services quelconques rendus, ça donne l'air d'être des impôts. Effectivement, c'est vrai, on vient de faire un effort par cette ordonnance-loi numéro 13/001 du 23 février 2013 de pouvoir mettre en place une nomenclature de taxes. Et que donc il y a cette nomenclature pour les taxes qui reviennent au pouvoir central et puis les taxes qui reviennent aux provinces. Mais quand on regarde bien, on se rend compte quand même que cette nomenclature est très détaillée, elle est très longue, donc il y a encore un peu ce phénomène de la multiplicité de taxes.
Donc comme si on se retrouvait dans une forêt, on ne sait pas comment, où aller, où trouver les gibiers, c'est ça. Donc c'est plusieurs rayons et puis on se perd, quoi.
Oui, on se perd, au niveau de légal, on a fait un effort pour établir la nomenclature, mais en réduisant un peu les taxes qui existaient dans le temps. Mais on se rend compte quand même que cette nomenclature est très très longue. Et puis la question que les auditeurs ont posée de dire qu'il faut vulgariser, j'ai comme l'impression que quand vous allez à la base, déjà les agents percepteurs de taxes n'ont pas la nomenclature de taxes, ne connaissent pas quelle taxe. Ils fonctionnent avec des vieux textes qui datent de plusieurs années et comme on a donné le cas de l'environnement et la dégérade. Mais en fait, l'environnement est considéré comme un service d'assiette, alors que la dégérade, c'est un service de liquidation et de perception. Notamment, normalement, les deux devraient avoir un même texte. Mais il arrive de constater que l'environnement a un autre texte qu'il applique, et puis la dégérade a un autre texte. Donc je crois qu'il appartient aux autorités de pouvoir disons distribuer le texte déjà au service administratif et faire un effort d'information, de marketing en direction de la population pour qu'elle connaisse réellement les taxes auxquelles elle est exposée.
Alors aujourd'hui, c'est vrai, c'est une réalité, hein, ces conflits entre services. C'est vrai, il y en a des auditeurs qui ont cité les cas de services de l'environnement et avec la dégérade. Il y a également la dégérade avec les affaires foncières. Si c'est à Kinshasa, c'est un peu criant, mais j'imagine, dans les provinces, ça sera encore très pire. Alors, comment régler ce genre de conflits?
Bon, tout d'abord, je voudrais dire quelque chose sur les différents ministères. Je crois que les différents ministères ne sont pas là pour percevoir les taxes. Si vous prenez l'environnement, son rôle est de protéger l'environnement, protéger les forêts, protéger. Et si vous prenez les affaires foncières, c'est pour mettre de la transparence dans la distribution des terres.
La taxe sur la pollution.
Oui, oui, d'accord. Donc, les taxes sont perçues par le ministère des Finances à travers son service qui est la dégérade. Donc, ce qu'on constate sur le terrain, c'est que tout le monde se fait percepteur de taxes. Et les gens mettent de côté leur propre responsabilité, leur propre mission, pour ne faire que la mission de percevoir les taxes. Et finalement, tous les agents de l'État ne font que percevoir les taxes, ce qui n'est pas normal. Je crois qu'on devrait spécialiser les gens.
Donc la mission de perception des taxes est révolue uniquement au ministère des Finances.
Est dévolue au ministère des Finances. Mmh. Et puis aux provinces, hein, bien entendu, parce que maintenant, il y a la décentralisation. Dans ce cadre-là, il y a des taxes qui sont perçues par les provinces. Donc c'est très, très important de former les gens pour qu'ils connaissent déjà leur mission, pourquoi ils sont engagés à l'État, et de savoir que ce n'est pas pour se percevoir, parce que vous allez au ministère des Transports, vous allez voir les agents en train de circuler à travers la ville pour percevoir des taxes. C'est pas ça leur mission. Leur mission, c'est de rendre fluide le transport, de veiller à ce qu'on puisse, que ce secteur soit promu, qu'il y ait beaucoup de trains, beaucoup de bus, etc. Donc ils font la promotion des transports et non pas la perception des taxes. Voilà ce que je peux dire.
Ça, c'est au niveau des ministères.
Mais vous avez posé la question de savoir comment on mettait de l'ordre. Et chez nous, c'est un peu difficile. Parce que vous connaissez qu'il y a le principe constitutionnel selon lequel le pouvoir central perçoit 100% des recettes et distribue ou bien rétrocède 40% aux provinces. Mais si on appliquait strictement ce principe, ça voudrait dire qu'on devrait avoir une seule autorité qui perçoit ces taxes à 100% et la redistribution se fait au niveau du ministère des Finances. Donc si vous voyez des pays comme la Zambie, comme l'Afrique du Sud, comme la Tanzanie et tous ces pays anglophones, hein, ils ont mis en place une seule autorité, un seul service qui perçoit les taxes. Donc il n'y a pas de OFIDA, DGI, DGRAD, non. C'est un seul service qu'ils appellent service des revenus, qui perçoit les taxes, qui est en face des usagers, et la rétrocession, s'il y a rétrocession, et c'est fait après. Ce serait les mêmes agents.
Oui, mais c'est très facile. Certainement, pour ne pas vous couper la parole, à un certain moment, il y avait même le conflit entre l'OCC et le ministère des Finances pour ce qu'ils avaient appelé le plus-value. Ils ont fait des recettes, il y a au fait des régies financières, hein, mm-hmm. qui réclamaient le plus-value. Pendant des moments, ils n'ont pas pu entrer en possession, avoir accès à cela, après avoir fait, en tout cas, des recettes. Alors, je crois qu'à ce niveau, parce qu'il y a déjà eu des difficultés par le passé, n'est-ce pas? Et les gens se sont dit, mais pourquoi continuer à donner à la DGRAD ou au ministère des Finances qui n'arrive pas à rétrocéder, disons, aux régies financières.
Oui, c'est bon, en ce qui concerne les régies financières, c'est lorsqu'elles font des performances, oui. Elles ont droit à une rémunération de la part un encouragement de la part de l'État, qui est prévu d'ailleurs par la loi. Mais en ce qui concerne les provinces, il s'agit de rétrocéder les 40% bien que ce n'est pas facile à faire, mais c'est, étant donné que ce n'est pas fait, c'est ainsi que les provinces se donnent le pouvoir de percevoir aussi elles-mêmes des taxes, même sur des opérateurs économiques qui ont déjà payé des taxes au pouvoir central.
Alors, mais c'est vrai que nous sommes dans les processus de la décentralisation, mais si on peut tout de même réfléchir un tout petit peu aujourd'hui, et c'est vrai, c'est devenu un phénomène, chaque province, par rapport au transfert des compétences, a au moins une régie financière provinciale. Est-ce que vous avez un commentaire par rapport à ça?
Oui, j'ai un commentaire. Tout d'abord, ces régies sont appelées Direction Générale des Recettes, etc. Étant donné qu'on est dans des provinces, moi je pense, d'ailleurs avec mes collègues à l'université, nous avons pensé que ça devrait être des directions. Parce que la Direction Générale, les Directions Générales se retrouvent au niveau du pouvoir central. Ça devrait être des Directions Provinciales des Recettes. Mais ce que je peux dire, c'est que ces Directions Provinciales sont constitués des agents qui ne sont pas nécessairement bien formés et sont constitués des agents qui ne sont pas nécessairement au courant des lois qui existent, surtout les lois qui font fonctionner le pouvoir central, parce que ils doivent délimiter leur territoire par rapport à ce que le pouvoir central perçoit. Ils devraient donc maîtriser bien les lois du pouvoir central et leurs propres lois. Et ça fait que finalement, ces directions provinciales également, on ne sait pas exactement. Parce que vous savez, le compte du trésor est connu, c'est le compte 11 000 par 1000. Ça, c'est depuis des années. 11 000 par 1000. Mais on ne connaît pas le compte
des régies,
des provinces. Mmh. Des provinces, pas des régies, mais des provinces. Bref, on devrait connaître ce compte pour que chaque personne qui doit verser la taxe puisse la verser, non pas entre les mains des agents, comme ça se fait pour le moment. Donc la critique que j'ai faite, c'est que les agents vont percevoir des recettes, même de grosses sommes en espèces, au lieu que de diriger les gens vers les comptes.
Oui, et l'opérateur économique d'ailleurs, qui garde aussi à l'anonymat, il nous a écrit pour dire effectivement, pour au fait payer une taxe, on l'a orienté vers un compte, il est arrivé au niveau de la banque, il s'est retrouvé devant deux comptes. Et on lui demande d'envoyer à un compte qui était un compte, que vous estimez que c'était un compte individuel sous le nom de quelqu'un. Alors il ne pouvait pas, mettre ce qu'on lui demandait et payer les taxes par rapport à ce compte-là. Donc là, il trouvait que cette direction favorise plus l'évasion fiscale.
Je ne dirais pas ça, parce que je ne suis pas sur le terrain, je ne connais pas ce qu'elles font, mais ce que je peux dire, c'est que elles favorisent difficilement la maximisation des recettes. Parce que, apparemment, il doit y avoir beaucoup de fuites des recettes, beaucoup de collages, enfin, comme on l'a dit. Il y a beaucoup de fuites des recettes. Et même le peu de recettes qui entrent en compte, à voir comment dans certaines provinces, il y a l'inaction. L'inaction. On se demande vraiment qu'est-ce qu'ils font du peu de recettes qui entrent et des rétrocessions qu'ils reçoivent de Kinshasa. On voit que, franchement, on ne fait rien. Si le pouvoir central ne fait rien en province, les provinces elles-mêmes ne font absolument rien. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment...
On va revenir sur vous avez parlé d'un guichet unique, hein, que l'expérience des anglophones. On pourrait voir quels sont les avantages qu'on peut tirer là dans ces mécanismes-là. Marcel est à Kisangani, Jado à Lubero et Dorcas à Lubumbashi. 081-890-63-15.
Parole aux auditeurs.
Marcel, vous êtes à Kisangani. Bienvenue dans cette émission.
Oui, bonjour Monsieur Gilles et bonjour à tous les auditeurs de la radio.
Votre point de vue.
Merci beaucoup. Je pense, s'agissant des conflits de compétences, c'est en matière de la perception des recettes, tant en caractère national que provincial. Ces problèmes se posent d'abord, je pense, à mon niveau, en deux volets. Le premier volet concerne les gens eux-mêmes, puisque à chaque fois qu'un service est chargé de la perception des recettes et voit les jours, donc nous constatons que le recrutement des agents chargés n'est pas basé surtout sur des critères rationnels, Et c'est ce qui fait là en sorte que la mise à niveau de ces gens, de ces agents, ne se passe pas au sur des critères rationnels. Donc, on recrute pêle-mêle et puis on les déverse sur le marché pour qu'ils aillent percevoir, n'ayant même pas la commandature à leur possession. Et les acteurs économiques chargés ou les contribuables qui sont auprès desquels ils se rendent et aussi n'étant pas informés à temps à ce qui concerne la naissance ou de ce service pour qui aient à leur de s'acquitter de leurs obligations, vous voyez que ça pose des problèmes. Et cela est perçu en même temps comme étant une tracasserie et d'aucun impérance, ça comme des conflits de compétences. Il y a d'abord le premier problème à ce niveau-là. Et, puisque la Constitution même, vous allez comprendre, M. J.R., à son article 171, discours à ce qui est, les finances des pouvoirs centrales et celles des provinces sont distinctes. Mais ces conflits de compétences, des fois, s'érigent aussi à ce niveau. Donc, les acteurs économiques ou les contribuables ne savent pas faire la part des choses entre les recettes en caractère provincial et de celles en caractère national, puisque des fois, on vous dit, voilà, l'environnement, par exemple, c'est au niveau national qui se présente par entremise de la division provinciale de l'environnement et en même temps le même environnement évoluant dans le même secteur se présente sous autre figure pour vous dire que voilà c'est l'environnement relevant du ministère provincial, tout ça, vous voyez que c'est ce qui sème des confusions. Et à ce qui concerne les régies en caractère provincial, mais nous jetons quand même de fleurs à notre excellence, M. le gouverneur Bamanissa, puisqu'il vient d'ériger le guichet unique. Cela, d'abord, passe par la sensibilisation et l'enregistrement des acteurs chargés ou des contribuables qui, auprès de qui on va percevoir ces taxes, pour que l'on ait d'abord la maîtrise parfaite et pour permettre aussi à ceux que ces agents disposent des nomenclatures dans laquelle contiendra toutes les catégories de taxes ou des impôts qu'aura à percevoir ces agents. Voilà une des bonnes manières d'agir que nous apprécions. Et je pense qu'à ce niveau-là, même le respect à caractère national devait d'abord commencer par mettre à la disposition des acteurs ou des contribuables les nomenclatures des taxes pour que lorsque ces services qui seront chargés de la perception de ces taxes ou impôts
soient déjà connus des contribuables.
Oui, donc ça déjà n'éprouve pas de difficultés en fait. Puisque
oui, Marcel, pour ne pas anticiper les choses, lors de son passage dans ces studios, le DGA de la DGDA, M. Mepou avait quand même soufflé aux auditeurs que dans les jours à venir, les gouvernements, l'État congolais est en train de voir comment amener toutes les perceptions à une seule, c'est-à-dire on aura un guichet unique dans les jours à venir, ce que les gens appelaient les guichets uniques intégrales. Je crois que c'est quelque chose à encourager, et dans la mesure où, si cela est vraiment opérationnel, ça pourrait amener, au lieu que chaque province puisse avoir son guichet unique, ça pourrait encore prêter à confusion et aussi occasionner ce que nous appelons le coulage. Merci beaucoup Marcel, à moins que vous ayez encore un autre élément à ajouter.
Oui, justement, j'ai un élément à ajouter. Ce qui concerne le guichet unique tel que venait de lancer notre électoraliste, bon, je ne pense pas que les provinces aient, ou chacune des provinces ait son guichet unique, puisse causer des conflits de compétences, puisque moi, à mon avis, je proposerais à ce qui concerne les recettes en caractère provincial, que chaque province érige des guichets uniques, et que cela se fasse autant pour aussi des recettes en caractère national, c'est-à-dire que le recette en caractère national puisse aussi ériger des guichets uniques pour que le régime provincial et celle en caractère national sont en tout cas distinctes. Je ne vois aucun inconvénient si des guichets uniques qui existent en ce sens-là. Vraiment, ce n'est pas un peu que j'avais ajouté.
Merci beaucoup, Marcel, d'avoir appelé de Kisangani dans la province orientale. Nous prenons Jado qui est à Lubero, au nord Kivu. Jado, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, Gérard Lungembo. Bonjour, tous les auditeurs de la radio Kati. En fait, le conflit de compétences des taxes ou des compétences entre le pouvoir économique avec la province et le gouvernement central,
oui, entre les services de l'État,
ça ne peut pas poser un sérieux problème. Parce que au moins l'article 171, on avait déjà défini les régimes économiques, et à l'article 204.16, on définit que peuvent être les taxes dues au pouvoir provincial. Le problème, c'est dans le cadre des recouvrements effectifs sur le terrain et des différentes taxes-là. Parce qu'en un certain moment, on dit qu'il doit y avoir des taxes qui doivent être perçues par le pouvoir provincial, mm-hmm. pour lesquelles le pouvoir provincial aura un 40% comme rétrocession. C'est là où se pose le problème. Je crois que les sénateurs congolais devaient arriver quand même à unifier le service de taxes. Ça veut dire quoi? Au moins, à ce qu'on puisse arriver à ce que les taxes puissent être toutes de la compétence du pouvoir central. Tellement la rétrocession qui doit être effective. Et cela pouvait permettre à ce que les contribuables ne puissent pas être tracassés par les différents services et qu'il y ait même conflit de compétences. Donc c'est là où il y a eu le vrai problème. Et je crois que pour sortir de cela, il faut encore peut-être réviser même la législation fiscale de notre République en étant un peu plus précis, et soit même agréer même la, comme l'invité l'a dit, nous inspirer de nos pays voisins, le système anglophone,
notamment,
où le service de l'économie est unique. Oui, Gérard.
Oui, vous parlez de l'exemple que nous avons. Alors, Jadot, on a des petits soucis là avec votre téléphone, parce que là, il y a vraiment une mauvaise communication. Vous nous entendez, Jadot?
Interruption, problème.
Voilà, merci beaucoup, Jadot, d'avoir appelé de Lubero. Nous allons, voilà, on va tout droit à Lubumbashi, hein. Dorcas est là. Dorcas, bonjour. Dorcas, vous êtes avec nous? Voilà, avec Dorcas, on a des petits soucis. On prend Arsène qui est à Kikwit. Arsène, bonjour.
Bonjour, monsieur Juer.
Vous avez la parole.
Merci de m'avoir accordé la parole. Moi, je crois que ce problème, c'est un problème très sérieux qui engage toute la nation. Le problème se pose au premier niveau de la moralité financière de notre nation. Moi, je fais un constat que tant que il n'y aura pas une moralité solide, une gouvernance solide, il y aura toujours des conflits. Pourquoi conflits? Parce que chacun veut gérer de l'argent. Pourquoi chacun veut gérer de l'argent? Parce que chacun n'a pas la possibilité de survivre correctement. Et quand on remarque que le directeur, il a plus d'argent que le travailleur de l'autre côté qui n'attend que les 30 000 francs le mois, qu'est-ce qui va se passer? Chacun va chercher dans son petit coin, commencer à percevoir des taxes et commencer même à mentir. Parce qu'aujourd'hui, il est difficile d'aller dans un bureau de l'État.
Oui, mais Arsène, c'est vrai. Bon, je vous coupe tout de suite parce que on sait tout de même que le gouvernement a fait quand même beaucoup d'efforts pour, au fait, mettre sur pied ou prendre l'ordonnance numéro 013/0013 de février 2013, portant au fait la nomenclature des taxes et autres droits liés aux entités administratives décentralisées et aussi des taxes de province. Je crois qu'à ce niveau, le problème ne se pose pas parce qu'il y a déjà un instrument tout le monde peut baser se faire une idée. Je crois que c'est question de vulgarisation, comme l'ont dit vos prédécesseurs.
Je crois que ce n'est pas la première loi qui sera vulgarisée, M. J.R. Ce n'est pas la première loi. Les techniques, nous l'avons. Nous avons tout ce qu'il y a comme élément pour mettre de l'ordre dans le régime financier de notre nation. Mais le problème se pose au niveau des animateurs, ceux qui doivent animer. C'est là où je cogne un peu mon intervention.
Arsène, donc vous ne partagez pas le même point de vue que Jadot qui parle de la révision fiscale. Donc il faut qu'on procède encore à une autre révision.
Oui, on peut le faire. On peut faire la révision fiscale. Mais avec quel résultat? Tenez, je vais donner un exemple. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler pour les taxes que nous devons payer ici à l'intérieur. Mais regardez un peu avec les redevances qui doivent venir de l'extérieur. Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'étais à la Metelsat. Je prends cet exemple-là. J'ai passé un bout de temps à la Metelsat. La Metelsat doit percevoir. Je ne sais pas si c'est elle qui est disposée à percevoir ce montant-là. Mais il y a eu un conflit. Je ne crois même pas que c'est résolu ce conflit jusqu'à aujourd'hui entre la Metelsat et la RVA. Maintenant, il faut mettre de l'ordre. L'ordre, c'est dans la conscience de chaque individu en tant que responsable d'une entité de l'État. Dès que nous saurons mettre ça, commençant par les hauts, je crois qu'il y aura de l'ordre. On saura que telle personne est chargée à telle histoire et on ne peut pas aller à une autre personne et personne ne peut toucher sur les compétences d'une autre. Voilà un peu ce que j'avais à dire. Je crois que dès qu'on met de l'ordre là-dessus, vraiment, je crois qu'il n'y aura pas de conflit et chacun saura où va l'argent de l'État et qu'est-ce qu'on fait avec.
Merci beaucoup Arsène, vous nous avez donné un autre exemple qui vient quand même aussi nous éclairer, le cas de Metelsat et la RVA autour de la perception de la redevance. Merci beaucoup. Marcel, vous êtes à Kananga, bonjour.
Bonjour, monsieur Jean-Luc.
Vous avez la parole.
Vraiment, à ce niveau-là, moi je trouve que cette mésentente intervient dans la mesure où il n'y a pas la professionnalisation. C'est-à-dire, il n'y a pas quelqu'un est ici et ne sait pas pour quel emploi il sera employé. Disons, je fais la littéraire, je suis maintenant dans les agences de perception d'argent. Vraiment, nous faisons aussi les études au Congo, comme si on n'a pas vraiment des cahiers de charges à remplir, ainsi de suite. Et aussi, il faudrait performer les travailleurs. Les travailleurs ont été employés, ça fait un temps. Mais on ne les performe pas. Aussi, c'est un problème. Alors qu'il faudrait que ces gens-là soient formés.
Tout à fait.
Vous savez, il y a l'amour.
Donc, ils aient des capacités requises pour faire ce travail. Voilà, merci beaucoup Marcel. J'imagine, donc, en fait, vous avez rejoint d'ailleurs l'idée de l'invité. Il faut travailler beaucoup plus sur les renforcements des capacités de ces personnels commis à la perception des taxes, que ce soit au niveau national ou au niveau provincial. 081-890-6315.
Parole aux auditeurs.
Professeur Bobo Kayembe, vous avez suivi les uns et les autres. C'est vrai, je commence d'abord par ce qui nous a tous vraiment, qui a attiré notre attention, la révision fiscale. Il y a un auditeur qui l'a évoqué.
Oui, la révision fiscale, c'est une tâche permanente et courante. Vous savez que les lois fiscales ne sont pas des lois qui sont appelées à rester figées. C'est des lois qu'il faut changer chaque année au regard des impératifs budgétaires, soit du pouvoir central, soit des provinces, et qu'il faut modifier pour rechercher l'efficacité. Donc les taux, par exemple, des droits de douane, ou bien les taux des impôts, ne doivent pas rester figés. Il faut les modifier tout d'abord pour faire comme les autres, par exemple, droits de douane. Il faut avoir les mêmes droits de douane que des pays voisins, que l'Afrique du Sud, que
l'Angola.
L'Angola, peut-être pas l'Angola.
Tanzanie.
Peut-être pas un bon exemple, parce que la Tanzanie, là-bas, d'avoir des taxes très élevées aussi, mais la Zambie, la Tanzanie et autres. Donc, on devrait avoir les mêmes droits de douane pour permettre aux marchandises, aux personnes de circuler normalement. Donc la révision fiscale et la révision de taxes, c'est une tâche permanente. On a établi la nomenclature de taxes qui est là, mais cette nomenclature, peut-être elle fixe plus de 100 taxes pour le pouvoir central et c'est combien pour les provinces. Mais évidemment, il faut avoir à l'esprit qu'on va vers une autre modification qui permettra de réduire encore ces taxes, parce que trop d'impôts tuent l'impôt, trop de taxes tuent l'idée même de taxes. Si un individu est exposé à plusieurs taxes à la fois, tout ce qu'il va faire, c'est refuser de payer. Donc, s'il est exposé à une seule taxe, il va payer. D'un coût raisonnable, il va payer. Donc, on a beaucoup de taxes, c'est pas qu'on fait beaucoup de recettes, parce que sur le terrain, c'est la fraude, etc. Si on veut juguler la fraude, il faut réduire la révision. Donc, c'est une tâche tout à fait normale.
Oui, il y a Marcel de Kisangani qui a été d'ailleurs complété par Jadot de Loubero. Ils évoquaient les articles de la Constitution, l'article 771 ainsi que l'article 204 qui fixe au fait la règle du jeu en déterminant au fait les limites, les délimitations, au fait les responsabilités des uns et des autres.
Oui. Je pense que la Constitution a essayé de fixer les choses en disant, par exemple, que certaines matières importantes reviennent à la compétence exclusive de l'État, du pouvoir central. D'autres matières reviennent à la compétence exclusive des provinces et d'autres matières sont des matières communes. Donc, ça veut dire que les matières sur lesquelles les provinces sont compétentes, ce sont les provinces qui devraient percevoir les taxes.
Mais ce n'est pas la réalité sur le terrain.
Ce n'est pas la réalité, malheureusement. Malheureusement, ce n'est pas ça. Donc on devrait, à mon sens, se faire violence pour appliquer la Constitution telle qu'elle est déterminée. Donc céder aux provinces les matières qui sont des provinces, le pouvoir central garderait les matières du pouvoir central, et les matières communes, peut-être on dirait que c'est le pouvoir central qui perçoit, quitte à faire la répartition aux provinces.
Alors si on peut encore revenir sur ce que vous parlez tout à l'heure là, un centre de revenus unique, l'expérience des anglophones, quels peuvent être les avantages, par exemple, de ces mécanismes?
Bon, tout d'abord, centre unique, pourquoi? Vous savez que nous sommes déjà dans des regroupements économiques, des zones économiques comme SADC, comme ça, avec ces pays anglophones. Donc, nous sommes déjà, nous les rencontrons, nous partageons des expériences, etc. On devrait avoir les mêmes méthodes de travail si nous voulons être aussi efficaces qu'eux. Les avantages, c'est de pouvoir mettre de la transparence dans la perception des taxes, c'est d'éviter les multiplicités des taxes, parce qu'on ne verra pas un agent de l'État qui vient percevoir, un agent de province qui vient percevoir, un agent des entités administratives décentralisées, parce qu'au niveau des provinces aussi, il y a les entités administratives décentralisées, qui sont des communes, etc. Elles aussi perçoivent au même moment que... Alors, si c'est un seul agent qui perçoit, il y a de la transparence, il y a la traçabilité, on connaîtra dans quel compte les taxes vont entrer, etc. Et je crois que c'est vraiment un bon système pour mettre fin aux tracasseries et pour mettre fin, disons, à la fraude sur...
Alors,
sur
ce mécanisme, en quoi il est différent, par exemple, de guichet unique intégral que prennent les États congolais, que l'État congolais pourrait installer à l'avenir?
Bon, le guichet unique intégral est un guichet unique qui fonctionne dans les frontières. Donc, c'est un guichet unique à la douane qui va impliquer tous les services qui se retrouvent aujourd'hui à la douane, qui sont nombreux aussi, hein, mm-hmm. parce qu'on a parlé de plus de 100 taxes à la douane, ce qui est une situation unique dans le monde. Donc, ce guichet unique-là concerne les droits des douanes et les taxes qui sont perçues dans les frontières, à l'entrée et à la sortie des marchandises. Mais les taxes dont nous parlons ici, ce sont des taxes qui sont perçues à l'intérieur du pays, à travers le pays. Et donc c'est des situations tout à fait différentes. Là, c'est un guichet unique, oui, qui va exister certainement, espérons, qui va permettre de résoudre le problème, parce que jusqu'ici, c'était des services comme OCC, ex-ONATRA, qui refusaient d'entrer dans ce guichet unique. J'espère que maintenant, ils vont accepter d'entrer dans ce guichet unique, parce qu'ils ont aussi leur mode de perception, leur base de calcul, qui sont tout à fait, qui font que leur perception sont beaucoup plus importante même que ce que perçoit la DGDA. Donc, finalement, on en arrive à une situation où l'argent qui entre dans la caisse de l'État n'a aucune commune mesure avec ce que ces régies-là, ces services-là perçoivent, et on ne sait pas à quoi est destiné cet argent-là. Mais alors, la perception, comme elle est faite à Kisangani, dans la province orientale, c'est aussi une sorte de guichet unique. Ce serait un guichet unique. Parce que la solution face à des fraudes, à des tracasseries, la solution c'est toujours le guichet unique. Ce serait un service unique qui, à l'intérieur du territoire national, perçoit les taxes, perçoit également les impôts, quitte au gouvernement central de pouvoir répartir ses impôts.
Est-ce que ça ne serait pas un fantôme à plusieurs têtes? Parce que si, je crois que la solution ne serait-elle pas, l'idéal ne serait pas que de pouvoir supprimer certaines taxes. Parce que si on garde toujours les mêmes taxes, mais avec le guichet unique, ce sera trop des taxes.
Oui, je crois qu'il faut faire les deux. Il faut faire les deux choses à la fois. Tout d'abord, c'est pas déjà très facile de supprimer certaines taxes parce que les différents services administratifs y tiennent. Ils tiennent à ça quand bien même on ne voit pas le rendement de ces taxes, l'efficacité de ces taxes, mais ils y tiennent. Ils ne veulent pas qu'on puisse les abroger. Donc c'est pas facile. Mais je crois qu'on peut faire les deux à la fois. Donc continuer à réduire la nomenclature de taxes et puis créer un service unique. Je ne sais pas s'il faut l'appeler guichet unique, mais moi j'ai dit un service unique parce que c'est un service énorme aussi. Parce que si c'est un service qui doit prendre en compte l'actuel DGDA, la DGI et la DGRAD et même les DGRK et autres, c'est un service énorme. Donc, parce que quand on parle guichet, on a affaire, on pense que c'est un bureau quelque part, un bureau unique, mais là c'est un service unique qui va fonctionner sur l'étendue du territoire national avec la mission de percevoir des taxes.
Emi est à Kinshasa, Mangoyo dans la même ville qu'Emi, et puis bienvenue à Bouya. Emi, bonjour. Emi, vous êtes avec nous?
Oui, je suis avec vous.
Alors vous avez la parole.
Ok, merci beaucoup, n'est-ce pas, pour m'avoir accordé cette parole. Et en passant, je salue M. Boaboa Akaembe, le fiscaliste.
Merci.
Alors,
merci.
En ce qui concerne, n'est-ce pas, encore la vulgarisation des textes de la loi, ce que nous sommes en train de débattre tout de suite ici, la loi 13 sur la nomenclature des sept administratives judiciaires et domaniales. Je dirais que les textes vraiment sont clairs. Si, par exemple, qu'on peut se mettre là-dessus, qu'on peut lire là, convenablement, il n'y a pas de provision entre les services. Et votre invité a parlé, n'est-ce pas, qu'il y a eu, n'est-ce pas, peut-être des confusions en prenant l'exemple de l'environnement et la DGRAD. Il dit peut-être, je peux m'exprimer dans ce sens-ci. Le service d'assiette qui est l'environnement, si nous prenons l'exemple de l'environnement, c'est le service d'assiette. Ce service-là émet ou bien constate la taxe à payer et émet un débit et une note de débit adressée à la DGRAD et une copie à l'opérateur économique. Tandis que, n'est-ce pas, la DGRAD, qui est le service de recouvrement, va émettre une note de perception avec une copie réservée à l'environnement, au service d'achat, et une note de perception adressée à l'opérateur. C'est peut-être au niveau de l'opérateur qui se trouve devant deux notes, et normalement, les deux notes reprennent la même taxe.
La même taxe.
Il y a la note de débit et puis la note de perception. Et on doit payer, n'est-ce pas, dans une banque, de son choix, pour que la DGRAD puisse, n'est-ce pas, retrouver cet argent. Alors, après, il y aura, n'est-ce pas, le recouvrement. Je crois que vous êtes en train de me suivre.
Tout à
ce niveau-là,
oui,
il n'y a pas de confusion, il n'y a pas de double taxation. Ça va?
Oui, allez-y, Yemi.
Alors, c'est ainsi que moi je dirais ceci. C'est que la confusion, c'est peut-être au niveau là de province. Au niveau des provinces, vous allez trouver que non, beaucoup de services sont centralisés auprès d'un ministre. Je prends l'exemple. Nous prenons par exemple la ville de Kinshasa ici. Vous trouvez quel ministre il a en charge et les l'environnement.
Voilà, Emi, s'il vous plaît, Emi, parce que là, oui. Si vous pouvez changer votre position ou carrément, si vous avez un poste récepteur.
Non, je suis très loin, n'est-ce pas, du poste. J'ai déjà changé même de position.
Voilà.
Je crois que là, vous me suivez maintenant.
Oui, ça va plus ou moins bien.
Alors, je disais que, donc, au niveau de la province, la petite confusion, ça règne, c'est quand on a rassemblé, n'est-ce pas, beaucoup de services auprès d'un seul ministre. Je disais que l'exemple, par exemple, la province de Kinshasa, vous allez trouver le ministre qui a en charge au même moment l'énergie, les hydrocarbures, les mines, l'environnement et autres. Et quand ces services se retrouvent, il y a une petite confusion. On ne sait pas qui fait quoi. Parce qu'au niveau de ces divisions là-bas, ils se disent qu'ils dépendent d'un seul ministre et qu'ils peuvent faire, n'est-ce pas, quoi, l'amalgame entre, n'est-ce pas, ces différents services. Vous allez trouver division des compétences sur les hydrocarbures, les hydrocarbures des mines, ainsi de suite, et que le chef de division des mines fait taxer aussi sur les hydrocarbures et l'énergie. C'est ça, peut-être la petite confusion. Mais au niveau de l'opérateur économique, il n'y a pas d'espace à faire. Lui, par exemple, s'il est dans le secteur des mines ou bien des hydrocarbures, il ne peut qu'aller payer sur base de la note de perception une taxe et une seule seulement. Et il ne doit pas se dire que non, parce que c'est émis par le chef de division de l'énergie et que les mines aussi venaient donner encore la même note, là, il peut, n'est-ce pas, se dire que non, il ne peut pas payer doublement. Si lui, il est dans le secteur des mines, il n'a rien à voir avec le secteur des hydrocarbures, par exemple.
Merci
ça,
beaucoup.
C'est ce qui peut être comme un petit contribution. Et il y a aussi, n'est-ce pas, une autre confusion, c'est sur les calendriers. Il y a les calendriers commerciaux et les calendriers normaux. Les dates sur les calendriers commerciaux, c'est, n'est-ce pas, au plus tard du 31 mars. Toutes les taxes, n'est-ce pas, conformément au calendrier commercial, doivent être payées. Et les autres taxes qui sont ponctuelles, ils peuvent être, n'est-ce pas, payées, n'est-ce pas, encore au moment où on pose cette taxe là-bas. C'est ponctuel, on peut le payer au mois de janvier, au mois de mai, au mois de décembre, ça dépend. Alors l'opérateur peut se dire que non, moi j'avais déjà payé la taxe à la fin du mois de mars, le 31 mars. Comment ça fait-il que maintenant, aujourd'hui, il y a encore une autre taxe qui revient au mois, par exemple, de juillet? Là, ce sont des actes ponctuels qui n'ont rien à voir avec le calendrier commercial.
Merci beaucoup, Amy, pour avoir contribué dans cette émission avec ces deux points très, très pertinents sur le calendrier et la note de perception. Nous allons revenir à notre invité pour avoir beaucoup plus d'éclairage par rapport à la question. Mangoyo, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, Gilles.
Vous avez la parole pour votre point de vue.
Merci, Gilles, pour avoir accordé la parole. Moi, je crois que, Gilles, le problème ici ne réside pas au niveau des textes. Et d'habitude, dans notre pays, nous avons des textes qui sont, en général, très clairs et nets. Le problème se pose au niveau des intervenants, au niveau des personnes censées appliquer la loi. Vous savez qu'il y a un adage qui dit « nul n'est censé ignorer la loi ». Surtout dans les chefs de ceux-là qui doivent les faire appliquer. Mais qu'est-ce qu'on constate? On constate que ces gens-là, c'est comme si c'est fait, disons, c'est comme si c'était un système qui a été instauré où les gens, en fait, se remplissent les poches. Regardez, moi, si mes souvenirs sont bons, quand on avait instauré le système de guichet unique, il y a à Matadi et à Kasumbalesa. Il semble que c'est seulement dans ces deux coins-là où fonctionne difficilement
ce guichet unique.
Mais depuis quand on a commencé à parler de guichet unique? Mais pourquoi il n'y a que sur l'ensemble du territoire national deux sites seulement où cela
est vraiment opérationnel?
C'est parce que justement, il n'y a pas de bonne volonté de mieux faire. Je vous en prie. Donc je crois que il faudra, dans les chefs de ceux-là qui nous dirigent, un peu de dose de bonne volonté pour faire marcher ce pays. On dit trop de taxes,
tu les taxes.
Tout le monde le dit. Mais personne ne fait un effort pour que cela puisse être normalisé.
Monsieur Mangoyo, il y a de cela 5 ou 10 ans, on n'avait pas la nomenclature que nous avons aujourd'hui. On est parti de plus de 200, 300 taxes pour avoir aujourd'hui qu'on se retrouve à 100 ou à 70, quelque chose comme ça.
Mais les nomenclatures, qui doivent les faire? Qui gère? Mais ce sont les gens qui sont habilités à le faire. Mais ils doivent faire. Qu'est-ce qui manque pour faire la nomenclature? Non. Ça existe. Tous ces documents-là existent. Ce sont des petits conflits comme ça, entretenus, qui se trouvent au niveau des ministères. Et vous savez, si mes souvenirs sont bons encore, vous savez qu'à un moment donné, l'OCC et l'OFIDA étaient en conflit, alors qu'il y a un guichet unique qui fonctionne à Matadi. Non. Moi, je pense que si ce n'est pas un problème du système, eh bien, je crois qu'il appartient. Personnellement, je pense qu'il appartient aux assujettis de se prendre en charge. Si les assujettis...
Oui, quand vous parlez d'une prise en charge, en quoi consisterait cette prise en charge? En quoi consisterait cette prise en charge?
Mais refuser de payer, par exemple, les taxes doublement. Lorsqu'ils constatent qu'ils sont déjà des taxes à payer.
Non, mais ce sont des taxes et droits dus à l'État. Donc, quand vous ne les payez pas, vous serez sanctionné.
Oui, mais d'accord. Il y a la loi,
et
il y a
l'État
la
n'aura pas le moyen de
tout le monde. On dit sur les taxes, toutes les taxes. Mais lorsque, par exemple, un assujetti se trouve devant le fait tel qu'il doit payer la même taxe,
par deux, par trois fois.
Là, il doit refuser. C'est, voici l'une des manières pour essayer un peu
de
moraliser. Ceux-là.
Oui, monsieur.
Je peux pas dire, parce que
oui, monsieur Bangoyo, juste pour une précision, une question de relance. Il y a également les contribuables eux-mêmes qui encouragent aussi des pratiques de corruption. Vous avez par exemple un contribuable qui doit payer 1 000 $ et un agent de la DGRAD qui lui dit oh, tu vas payer à la caisse de l'État par exemple 300 $ et les 700 on va se le partager.
Oui, mais c'est dommage, mais à ce moment-là, maintenant, il faut que les pouvoirs publics agissent. Il faut que les pouvoirs publics interviennent parce que on ne peut pas continuer comme ça dans l'immoralité et ça c'est le pays tout entier qui en pâtisse. Vous comprenez? Donc je crois qu'il faut que les pouvoirs publics à un moment donné interviennent. Il faut qu'il ait la volonté politique pour mieux faire et les assujettis parce qu'il n'y a pas c'est pas tout le monde hein, qui combine avec les services en question. Moi je crois que il y a des assujettis qui veulent bien payer mais à cause des appétits gloutons de certains services, eh bien, ils ne veulent pas travailler dans la transparence. Alors, il faut que les gens se prennent en charge.
Alors, M. Bangoyo, quel commentaire faites-vous par rapport au propos de notre invité tout à l'heure qui parlait de l'expérience des anglophones? Avoir un service de perception unique, ça pourrait quand même aider à résoudre ces conflits.
Oui, mais le guichet unique, JR, je vous ai dit, ça fonctionne en Atadi et à Soumalesa. Quel type de guichet unique on va encore instaurer?
Voilà, notre invité avait fait la différence entre les guichets uniques,
les choses en bas,
les frontières.
Je pense que c'est un problème de culture. Si nous devons aussi avoir une culture fiscale chez nous ici, qui soit une bonne culture fiscale. Si ça marche ailleurs, c'est parce que là-bas, c'est voilà, une culture. Mais le système n'est pas celui que nous avons chez nous en RDC.
Monsieur Bangoyo, s'il vous plaît, restez en ligne, on va vous reprendre juste après le flash d'information pour poursuivre cette émission.
Parole aux auditeurs, pour participer, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans cette émission Parole aux auditeurs. Qui vous accorde la parole? Monsieur Mangoyo, vous êtes à Kinshasa. Avant le bulletin d'information. Voilà, Monsieur Mangoyo, vous êtes avec nous? Voilà, on pourrait peut-être récupérer Monsieur Mangoyo au cours de cette émission. Alors, bienvenue, vous êtes à Bounia. Bonjour. Voilà, dommage. Et nous reprenons plutôt Théodore qui est en Boujimaï. Théodore, bonjour.
Bonjour, Jean.
Vous avez suivi les auditeurs qui vous ont précédé. Vous avez la parole et votre point de vue.
Merci pour la parole. Je crois que les lois sur les impôts qui sont légiférées à partir de la législation nationale et aussi il y a des taxes à partir des édits là au niveau provincial. On est en train de légiférer chaque jour ici. Pour moi, je trouve que toutes ces nomenclatures font passer les taxes à la hausse. Pourquoi? Il y a des impôts liés aux nouvelles lois, demandant aux entreprises de petite taille, par exemple, de payer les 1% sur le chiffre d'affaires annuel. C'est bon, on a accueilli, c'est ce que les législateurs ont fait, quelque chose de bien. Ils nous ont précisé, par exemple, quelqu'un qui a vendu toute l'année 22 millions de francs congolais paye les 1%, ce qui fait qu'il paye 220 000 francs congolais. On se limite là-bas. Mais notre grande surprise est quoi? Vous payez comme ça, tout juste après, comme au mois de juin maintenant sur le terrain. Nous sommes en train de passer des problèmes. Ils passent pour faire des suppléments d'impôts. Nous leur présentons les facturiers qui doivent leur montrer comment le chiffre d'affaires s'est réalisé, la vente de toute l'année. Mais nos amis de la DGI rejettent. Ils font le supplément d'impôts. Pour quelqu'un qui a payé 220 000 francs, on lui demande de supplier l'impôt de 500 000 francs congolais. Pourquoi tout ça? Parce que nous avons des éléments à justifier. Ce sont des choses que nous déplorons. C'est ainsi que nous disons au niveau provincial, par exemple. Il y a des taxes, il y a des nomenclatures. On a cédé des taxes à la province, comme l'impôt foncier, il y a l'impôt sur les revenus locatifs, et la taxe rémunératoire, comme l'impôt foncier. Ce sont les propriétaires qui doivent payer l'impôt foncier annuel. Donc c'est connu, nous le faisons. Mais le problème se pose sur l'impôt sur les revenus locatifs. Quand nous donnons au bailleur l'argent, c'est le bailleur qui doit prendre les 20% pour aller payer au service de recettes de la province. Vous arrivez là-bas, ici chez nous en Bougie-Rivière, je vous dis que tous les dépôts qui coûtaient 100 dollars le mois, avec l'exode qui s'est fait ici en Bougie-Rivière, aujourd'hui ces dépôts-là coûtent 7 dollars, 10 dollars. Alors quand on se rend avec cet argent à la DP dit non, vous avez minoré. Mais comment? C'est l'entente entre les bailleurs et les contribuables. Nous devons payer ce qui est sur papier. On rejette, on dit non, au lieu de payer les 20% de 7 dollars ou de 10 dollars, c'est que vous devez payer seulement 100 dollars. Mais dans les contrats de bail, ce n'est pas ça. Voilà un peu les difficultés que nous rencontrons. Il y a aussi la taxe rémunératoire qu'on a cédée à la province, qui était à l'environnement. Mais aujourd'hui, nous la payons. Si on payait à 23 000 francs congolais. Mais aujourd'hui, on vous dit de payer 94 000 francs congolais. C'est vraiment dommage. Nous avons rejeté, et malgré ça, le ministre provincial des Finances, c'est un homme dédié, il a compris la chose, il a dit non, la conjoncture économique est vraiment difficile. Voilà, nous demeurons, nous payons 23 000 francs congolais. C'est pourquoi nous demandons, malgré les fichiers uniques et tout ce qu'on peut faire, beaucoup d'impôts, si vous voulez.
Merci beaucoup, Théodore. Jean, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, Gilles. Bonjour, parents auditeurs.
Voilà, vous avez suivi tout à l'heure Théodore qui parle de supplément d'impôts. Il a même évoqué quelques cas au fait des cas malheureux au niveau de Mbujimayi. Vous avez la parole.
Ok, merci beaucoup. Moi, je crois que le vrai problème aussi, parce qu'il y a des multiplicités d'impôts, il faut qu'on soit heureux aussi, où passe réellement l'argent qui est perçu. Parce que si vous pensez que vous êtes à la ville de Kinshasa, vous voyez le nombre de marchés qui est à Kinshasa, avec les retards, que vous connaissez bien, mais on perçoit sinon, chaque jour, quelque chose, et la pauvre population paye les taxes. Vous avez remarqué que les taxes, là, même seulement les services d'entretien des marchés, ne répondent pas. On vend dans des conditions vraiment animales. Alors, où part souvent l'argent qu'on perçoit par les différentes taxes que nous payons? Parce que moi, je dis toujours, la population n'a pas les problèmes. Les problèmes sont nos dirigeants, parce que nous devons avoir l'impact des taxes doit se sentir aussi auprès de la population. Mm-hmm. On doit entretenir ceci, les toilettes par exemple, assainir les milliers, ainsi de suite. Mm-hmm. Alors, si on peut avoir une bonne politique de notre communauté, nous, voilà les taxes que nous percevons pour ces mois ou de cette année ici, on doit faire tel travail. Comme ça aussi, ça va exciter la population à s'acquitter tranquillement des différents taxes. Peut-être aussi, il y a plusieurs taxes que nous payons, mais qu'on ne donne jamais une quittance pour témoigner que voilà, tel a payé. Mm-hmm. Parce que chacun se fait percepteur. Alors, il y a des trésors publics, donc l'argent qui entre dans les poches des individus. C'est que non, voilà, vous attendez, maman, je parle, il passe même vers 17h, 18h, alors qu'on sait que non,
les marchés de bureau,
16h, c'est déjà fermé. Mais vous remarquez quelqu'un qui passe vers 17h, 18h, 7h, 17h30, et il perçoit les taxes. Et les mamans paient facilement pour éviter le problème que demain, elle ne pourra pas faire. Vous voyez. Et cet argent-là, ils le mettent dans la poche. Et les mamans aussi donnent cet argent sans recevoir un petit morceau de papier témoignant qu'elle a payé. Bon, voilà un peu autant de fuites d'argent que nous avons. Alors le gouvernement pourra quand même faire le mieux possible, c'est-à-dire canaliser les recettes.
Donc canaliser vers un service unique.
Pour que ça puisse servir la population et non que ça entre dans les poches des privés.
Merci beaucoup Jean d'avoir appelé les Kinshasa. Nous revenons à vous, professeur Bobo Kayembe. Si on peut maintenant prendre les préoccupations des uns et des autres en compte, on commence par Emy. Emy qui était le premier d'ailleurs à parler. Emy avant le flash d'information. Et également Arsène. Nous avons eu Marcel de Kananga, Emy de Kinshasa. Mangoyo de Kinshasa et Théodore de Mbujimayi et Jean de Kinshasa. Comment répondez-vous aux uns et aux autres? vôtre.
Merci beaucoup. Je prendrai tout d'abord Marcel de Kananga qui parle de la formation des travailleurs. Ça, c'est un élément très, très important. La formation doit être tout d'abord une formation sur l'État, c'est-à-dire que les responsables directeurs doivent être les premiers formateurs des agents, et puis on peut faire des formations comme des séminaires de formation, etc. Donc une matière comme celle-ci, c'est une matière très 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 délicate, qui nécessite que les agents qui sont employés, donc recrutés, soient des agents bien formés tout d'abord, qui connaissent la fiscalité, les finances publiques et autres, et que ce soit des gens formés sur l'État régulièrement. En ce qui concerne Amy, qui a parlé, qui a donné le cas de l'environnement et de la DGRAD, l'environnement qui est inséré dans la CES, bien sûr, qui fait des notes de débit, et la DGRAD qui établit des notes de perception. Je crois que le cas qui a été donné, nous qui travaillons pour l'État, nous ne pouvons pas être là pour dire seulement que oui, non, non, ça va, ça va. Il faut aussi voir les gens qui sont sur le terrain et qui nous disent que ça ne va pas. Parce que dans le cas d'espèce, on a indiqué que le monsieur de l'environnement avait un autre montant, a établi un autre montant, et celui de la DGRAD a établi aussi un autre montant sur base de lois
qui prête à confusion.
Tout à fait différentes. C'est ça le problème. Il faut que l'État ou bien les provinces puissent faire en sorte que des cas comme ça ne puissent pas arriver. Et monsieur Mangoyo de Kinshasa, et lui, il parle, il dit que le guichet unique fonctionne difficilement, c'est ce qui est vrai. Et il n'y a pas de bonne volonté. Alors il dit que les assujettis devraient refuser de payer. Non, on ne peut pas refuser de payer. On ne peut pas refuser de payer parce que l'État fonctionne sur base des impôts et des taxes. Ce qu'il faut souhaiter, c'est que le système puisse être amélioré. Mais pas dire qu'on doit refuser parce que, bon, voilà, on va construire des routes, des hôpitaux et tout ça avec tous ces montants-là.
Théodore
Quelqu'un a parlé de Théodore, oui, de Mujmaï. Qui parle de taxes.
Le supplément d'impôt.
Le supplément d'impôt.
La taxe rémunératoire, il a donné le cas de l'impôt foncier.
Bon, je crois que c'est des choses qui peuvent arriver, qui doivent arriver, parce qu'il y a toujours les redressements et les suppléments qui sont infligés à ceux qui ne veulent pas payer. Mais je pense que si le cadre juridique est clair, on ne peut pas arriver à des situations comme ça. Si le cadre juridique est clair, et si la population a bien compris ce qu'elle doit payer et pourquoi elle doit payer, je crois qu'on ne doit pas arriver à des situations de supplément, parce que les gens, spontanément, ils vont payer ce qu'ils devraient normalement payer. Donc, je crois que le problème qui a été posé ici, c'est le problème du coût même de la taxe. Il faut que la taxe soit proportionnée aux revenus des gens. La taxe ne doit pas être exagérée. Le montant ne doit pas être exagéré. Bon, il y a Jean de Kinshasa.
Malheureusement, on ne sera pas prendre encore en compte la préoccupation des gens de Kinshasa, qui a aussi évoqué l'aspect quittance. Professeur, le temps nous fait défaut, donc on s'arrête là pour aujourd'hui. Nous vous disons merci à professeur Boabo Kayembe d'avoir accepté notre invitation et surtout d'avoir accepté de faire le déplacement de ses studios pour communier avec les auditeurs, et ça nous fait énormément plaisir.
C'est un plaisir pour moi, et je pense que je serai toujours disponible pour venir.
Merci beaucoup. Guy Manzang, Titi Poutou et Pierrot et la Mégie ont réalisé cette émission supervisée par Nicole Gaka, une émission qui a été coordonnée et présentée par J.R. Lungembo. Réécoutez cette émission sur www.radiocapi.net. L'épidémie de la fièvre jaune déclarée dans le district sanitaire de Cabinda au Kasaï oriental. Comment commentez-vous cette actualité? C'est le sujet de demain. Prenez déjà rendez-vous avec nous en nous adressant vos commentaires sur notre page Facebook, ou encore en nous envoyer vos propositions à notre adresse pa@radiocapi.net. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Radio Capi.